1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour l'émission Le Grand Tour. On est ensemble pendant environ 1h10 sur Canal B, comme tous les jours du lundi au vendredi, 16h30, 17h40. Rediffusion du mardi au samedi matin de 8h30 à 9h40, et puis playlist et réécoute sur canalb.fr. Vous connaissez le programme, on est mercredi, alors on retrouvera Soisig Le Bay pour Allez on lit, tiens, 73e du nom, Les Enfants de Freewater d'Amina Lugman Dawson. Enfin, émission tout à l'heure, les deux albums découverts pour les radios de la Ferra Rock. On a commencé à les découvrir, ces albums de TV Sundays et de Bilbao Kung Fu lundi. Vous retrouverez toutes les infos sur ferrarock.org. Et puis, on retrouvera Latifa Labissi interviewée par Nadia à propos d'Extension Sauvage, 14e du nom, qui se déroule, ce festival de danse in situ à Combourg vendredi et samedi, et puis à Bazouges la Pérouse dimanche. Avant ça, on aura pu parler avec deux des participants, avec les deux créateurs de Out of the Blue, Frédéric Vernier et Sébastien Davis Van Gelder. Out of the Blue à voir ce mercredi et ce jeudi au Théâtre du Vieux Saint-Étienne dans le cadre du Temps Fort Cirque par Eroop. Et puis pour commencer l'émission dans quelques secondes, un titre de notre disque d'or de la semaine, le très bon disque instrumental, pratiquement instrumental, il y a un peu de parole quand même, de Ouzo Bazooka. On va du côté du Moyen-Orient avec une ambiance très psychédélique sur tous les titres de l'album et particulièrement sur ce morceau Sof, S-O-2-F. Bonne émission.
We'll be right back.
suis un crabe parce qu'il y a un petit film qui s'appelle The Little Mermaid, la petite sirène, dans laquelle il y a un espèce de personnage, voilà, je dirais, une écriture raciste d'un personnage caribéen crabe, avec des grosses lèvres rouges, avec un gros accent qui parle un peu en, entre guillemets...
Je ne sais pas si c'est l'ivresse des profondeurs, mais il semblerait que notre invité Sébastien Davis Wangelder soit pris dans un délire. Là. Bonjour Sébastien.
Bonjour. Ce n'est pas un délire, c'est vraiment ce micro, Disney.
On est avec aussi Frédéric Vernier. Bonjour.
Bonjour.
Et tous deux, vous êtes sortis du bleu. Alors, ça peut se comprendre de deux manières différentes. Out of the blue, c'est de manière inopinée, comme ça, tout d'un coup, ou alors hors du bleu. On l'entend de ces deux façons-là chez vous ?
Absolument, ouais. C'est vraiment une phrase qui nous inspire depuis le début de notre projet. Parce que aussi, ce projet, il est né de notre rencontre et de la spontanéité de nos envies, tous les deux, de continuer à se rencontrer dans l'eau et continuer à partager... cet univers aquatique avec le public.
On est ici au Théâtre du Vieux-Saint-Étienne. D'habitude, le spectacle, il se passe à l'air libre, ici. Alors, je ne parle pas de la salle de spectacle, l'air libre. Bon, les habitués du théâtre et des spectacles à Rennes savent de quoi je parle. Vous, peut-être aussi, puisque vous connaissez un peu Rennes. En tout cas, Héroupe vous accompagne depuis quelques années. C'est dans le cadre de ce temps fort cirque que je parle avec vous. Moi, je vous vois, vous êtes assis sur les gradins, premier rang, mais face à vous... Il y a une sorte de grand... Est-ce qu'on appelle ça un aquarium ou pas tout à fait ?
On l'appelle comme on veut, mais on a souvent tendance à l'appeler un aquarium.
Ça contient beaucoup d'eau. Combien de litres exactement ?
8 mètres cubes d'eau.
C'est suffisant pour y faire toutes les acrobaties sous-marines que vous allez y faire pendant le festival ?
C'est suffisant pour faire le spectacle qu'on fait, évidemment, puisqu'on l'a créé pour cet aquarium. Mais c'est tout le paradoxe de l'objet, c'est-à-dire que c'est à la fois beaucoup d'eau et en même temps... comparé à l'immensité de la mer, ben c'est peu d'espace, donc on a dû bien choisir les matières qu'on proposait pour ce spectacle, mais ça offre des contraintes qui sont très intéressantes. On aime bien se dire qu'une fois que le spectacle commence, on arrive un peu à l'oublier cet aquarium, à imaginer qu'on est justement dans quelque chose de plus grand peut-être.
Votre passion pour l'eau et pour y faire autre chose que nager seulement, elle remonte à quand pour l'un et l'autre, peut-être pour Frédéric.
J'ai bien sûr toujours aimé l'eau. J'étais le genre de gamin qu'on n'arrive pas à sortir de l'eau, qui a les lèvres toutes bleues et qui dit non, j'ai pas froid, alors qu'en fait ça fait 5 heures qu'il est dans l'eau. Mais ça m'a un peu passé à l'adolescence et j'ai retrouvé ça vraiment après les écoles de cirque, où j'ai découvert l'apnée et là je suis complètement tombé dedans. J'ai vraiment eu une grosse, grosse passion pour l'apnée. Et du coup, je suis devenu instructeur d'apnée en 2020 et c'est à la suite de ça que j'ai vraiment eu envie de monter ce projet-là avec Sébastien, qui lui a un autre parcours dans l'eau de longue date aussi.
Oui, moi je suis né d'une famille assez aquatique. J'ai passé les premières années de ma vie sur un bateau dans les Caraïbes. Et puis après, de fil en aiguille, je suis devenu sportif de haut niveau dans la natation. Voilà. Après, je me suis mis au cirque et ça m'a toujours un peu titillé l'envie de faire quelque chose dans l'eau. Et c'est vraiment avec la rencontre avec Frédéric et sa transmission de l'apnée. En fait, j'avais jamais eu cette approche-là à l'eau et ça m'a vraiment ouvert à tout un univers.
Finalement, nous, les humains, on passe notre vie sur une planète qui est principalement composée d'eau. Nous-mêmes sommes principalement composés d'eau. On vit pendant 9 mois dans un liquide amniotique. On est des poissons à la base quand même, non ?
Carrément, oui. Et c'est pour ça, en fait, je voulais revenir au mot aquarium, parce que ça peut paraître un peu banal comme mot, mais en fait, c'est, si tu regardes à l'étymologie, c'est aqua, bien sûr, qui veut dire l'eau. Et du coup, le suffixe veut dire plus se mettre en relation avec. Et donc, c'est là que je trouve ça assez chouette, en fait, l'aquarium et l'objet. C'est que c'est un moment dans le spectacle et c'est un espace et un genre de installation où on va se mettre en relation avec l'eau. Et on a souvent ce retour du public qui dit que tu vois, ils oublient qu'on était en train de retenir notre souffle, ils oublient Ils sont carrément plongés avec nous et ils oublient l'aquarium. Et c'était, ouais, c'était un grand enjeu aussi de l'écriture, de faire un peu disparaître l'objet dans, pour le public, qui puisse se projeter et plonger avec nous sous l'eau. Dans l'aquarium.
Depuis un certain film de Luc Besson qui est sorti avant que vous soyez né, il me semble, on sait qu'on ne peut pas rester indéfiniment sous l'eau. Même si on n'a pas vu Le Grand Bleu, on sait qu'on ne peut pas rester indéfiniment sous l'eau, on n'a pas des branchies, on n'est pas tout à fait des poissons quand même. Ça signifie quand même que, out of the blue, il y a des moments où vous remontez à la surface, reprendre votre souffle, parce que si ça dure une heure... hein, comment ça se passe ?
Alors, il y a beaucoup de respiration, c'est même... Moi, j'aime bien dire que l'apnée, c'est l'art de réapprendre à respirer. En fait, c'est justement se reconnecter à son souffle, à son oxygène, à la ventilation, qui permet de d'étirer ces moments-là de suspension entre une inspiration et une expiration. Et je pense que le spectacle, on s'est vite rendu compte que c'était impossible de cacher ces temps-là. Donc, en fait, ils font, je crois, vraiment partie intégrante du spectacle. Et c'est même... En fait, on alterne beaucoup entre des moments d'apnée, peut-être de tension plus intense, plus anxiogène pour certains et certaines, mais aussi des moments vraiment de respiration où ça fait du bien de respirer. Et donc, on a la chance d'être deux, donc on alterne ces moments-là pour que la scène puisse continuer sa narration. Mais on est sur des apnées, au final, relativement courtes, mais avec des temps de récupération aussi très courts. Et pour anecdote, sur du coup 55 minutes de spectacle, on est autour de 37 minutes d'apnée pour 55 minutes de spectacle.
On ne va pas limiter out of the blue à un exercice technique et physique, parce que c'est ça forcément, mais ce n'est pas que ça forcément, ça ne serait pas du spectacle si c'était que physique et technique. On imagine bien, moi je n'ai pas vu évidemment Out of the Blue, hein, il joue à partir de ce mercredi 18, il joue deux soirs de suite ici au Vieux Saint-Etienne pendant le temps fort cirque et roupe. J'imagine de la poésie forcément due à ce moment en suspens, forcément, qu'on soit dans l'air ou sous l'eau, mais on est en suspens comme ça. Vous les avez créés comment, ces acrobaties, en pensant à ce que vous avez déjà appris à faire sur la terre ferme, ou en vous débarrassant complètement justement de ce que vous saviez faire sur la terre ferme?
C'est plutôt le deuxième. C'est aussi en passant beaucoup de temps dans l'eau ensemble. On a fait deux résidences d'une semaine à Rennes, dans la piscine,
la piscine des Gaïeuls.
Dans leur fosse de plongée qui va à 10 mètres, et ces temps-là, ils étaient hyper riches pour nous de se rencontrer aussi avec une espace et un temps qui, tu vois, quasi illimité. C'était pas vraiment illimité, mais on a vraiment eu beaucoup de temps pour expérimenter plein de choses, et ça c'était hyper important. Donc c'était plus en passant du temps dans l'eau ensemble, en rêvant dans l'eau, que nos acrobaties et nos compositions sont manifestées. Ouais.
Oui, aussi dire qu'on avait vraiment eu des nouvelles cartes avec lesquelles jouer dans ce spectacle. Donc, avec Sébastien, on vient tous les deux des portées acrobatiques, et on se bat depuis qu'on est circassien avec la gravité, surtout. Et là, d'un coup, on a des lois physiques qui sont complètement nouvelles, et c'était un peu un non-sens de réessayer de faire les mêmes choses, que de toute façon, toutes les cartes du jeu sont différentes. Donc il a fallu réinventer les règles, recomprendre comment est-ce qu'on joue et comment est-ce qu'on interagit avec notre propre corps, mais avec le corps de l'autre aussi. Et ça a été une recherche super riche de découvertes pour nous, justement pour ça, parce que les lois fondamentales du projet ne sont pas les mêmes que celles avec lesquelles on a l'habitude de jouer. Et donc je pense que c'est vraiment la singularité de ce projet-là, c'est-à-dire que nous, on a juste utilisé nos tics de circassiens, c'est-à-dire nos façons de faire fonctionner notre cerveau en connexion avec notre corps. C'est des habitudes de recherche, c'est-à-dire je pense qu'on ne cherche pas la matière comme pourrait le chercher un scientifique ou un danseur ou un comédien. On fait une recherche vraiment de cirque, mais on a remis tout à zéro, quoi. C'est vraiment... l'eau fonctionne absolument pas comme l'air, c'est impossible de faire la même chose, quoi.
Est-ce que vous voyez peut-être les nageuses des comédies musicales hollywoodiennes des années 50
ou bien quelques images,
spectacles de natation synchronisée comme celles qui vous ont montré un peu la voie ?
Ça faisait partie du paysage forcément, mais je pense qu'on a on n'avait pas envie de pas pour se démarquer ou dire qu'on fait quelque chose de nouveau, mais nous c'était très clair qu'on voulait explorer l'immersion, donc ce qui se passe sous l'eau. Et la natation synchronisée, elle flotte, il ou elle flotte souvent beaucoup à la surface. Donc on avait peu d'images au final de mouvements chorégraphiques ou acrobatiques immergés en apesanteur. Et c'est aussi ça qui nous a donné envie de faire ce projet-là, vraiment. C'est-à-dire que, tiens, il y a une page blanche à cet endroit-là de la recherche physique. Qu'on a eu envie de...
d'explorer, quoi. C'est en ce sens-là, évidemment, qu'on peut vraiment dire que l'acrobatie en monde flottant, c'est vous qui l'inventez.
Ah non, ça c'est trop loin, c'est trop loin. J'oserais pas prétendre à ça. Alors, il y a aussi, je pense qu'il faut aussi parler de d'autres personnes qui nous ont inspirés, dont Jörg Müller, un autre circassien qui travaille dans un tube qui doit faire 1 mètre de diamètre et je sais pas si j'ai dit n'importe quoi, 3 mètres de hauteur, qui est un jongleur à la base, qui du coup qui a créé un spectacle où il jongle avec son corps dans ce tube, qui a beaucoup tourné et qui continue à tourner aussi. Oui, et puis il y a aussi un super travail plus sur la vidéo avec Julie Gauthier. Sur le mouvement sous l'eau et en tout cas ce que des outils de l'apnée nous ouvrent comme possibilité pour bouger, explorer le mouvement sous l'eau. Ouais.
Pour terminer peut-être cette courte discussion avec vous deux, Frédéric Vernier et Sébastien Davis von Gelder, à propos de Out of the Blue, je vous rappelle, vous pouvez le voir mercredi et jeudi ici au Théâtre du Vieux Saint-Etienne grâce à Eroop. Pour terminer, est-ce qu'il y a des mammifères marins, des poissons particulièrement qui vous ont inspiré dans leur gestuelle, dans leur façon de se mouvoir sous l'eau et que vous avez déjà vu forcément évoluer sous l'eau?
Il y en a plein, ouais. Il faut choisir un seul. Bah, ce sera la poulpe. Je pense que la poulpe, elle est vraiment assez magnifique dans ses capacités de bouger, d'explorer l'espace dans toutes les dimensions et aussi de s'adapter, de se camoufler, la capacité de changer de couleur et tout. Je trouve ça incroyable comme les caméléons, quoi. Et après, je pense qu'il y a plein d'autres leçons à apprendre aux mammifères marins. Là, actuellement, je lis un bouquin, je ne me rappelle plus c'est qui l'autrice, mais c'est un travail autour du féminisme. Qu'est-ce qu'on peut apprendre des mammifères marins? Et c'est vraiment extraordinaire. Je pense que c'est vraiment tout un monde incroyable avec plein de choses à découvrir encore. Et c'est, voilà, c'est dommage que écologiquement, ça devient de plus en plus mis en danger.
Si le poulpe, donc, c'est l'animal totem de Sébastien, bah, Frédéric, du coup, un autre?
Moi, je dirais que c'est le phoque. J'ai vraiment une tendresse incroyable pour ces animaux et j'admire énormément Faux. Et je conseille à tout le monde de regarder des phoques bouger dans l'eau. C'est d'une élégance incroyable.
Venez vous rafraîchir aussi. Hein, vous aurez un contraste frappant entre l'extérieur et l'intérieur du Théâtre du Saint-Etienne. Ici, il se fait très frais. C'est Out of the Blue. C'est à voir ici à Rennes, mercredi et jeudi. Toutes les infos sur a-roup.com. Merci à vous deux.
Merci à toi.
Dans la page culture de l'émission Le Grand Tout sur Canal B aujourd'hui, on va vous parler de danse et ce seront surtout notre invité Latifa Labissi, bonjour.
Bonjour.
Et puis Nadia, notre chroniqueuse danse qu'on n'avait pas entendue depuis longtemps, bonjour Nadia.
Bonjour.
C'est elles deux qui vont parler d'extension sauvage, 14e du nom, entre Combourg les 20 et 21 juin et puis Bazouges La Pérouse le 22 juin, de la danse Institut de la danse dans le paysage, de la danse sauvage, peut-être. Je vous laisse toutes les deux nous donner envie d'aller faire un tour du côté de Combourg et de Bazouges-la-Pérouse à Extension Sauvage.
Alors Yann, effectivement, il l'a dit, c'est la 14e édition, 14e édition déjà. On avait déjà pu t'inviter pour ce même festival. Juste pour, avant d'entrer dans le détail de l'édition, si tu devais résumer cette édition, cette 14e édition, en un geste, tu dirais quoi ?
Je vais le décrire. Un geste cambré, percussif et intense.
Waouh ! Comme le titre, Extension Sauvage. Alors sauvage, évidemment, renvoie à quelque chose de notre imaginaire. Aujourd'hui, ça résonne peut-être un peu différemment, le terme de sauvage, à l'époque où tu as créé en 2011 ce festival. Qu'est-ce que ça dit, sauvage, aujourd'hui, pour toi ?
Peut-être je dis juste que Extension Sauvage, en fait, je l'ai emprunté dans une lecture à un danseur que j'aime beaucoup, un danseur japonais qui s'appelle Hijikata Tatsumi, qui n'est plus de ce monde, et qui dansait beaucoup in situ. Il n'est jamais venu en France, il a travaillé essentiellement au Japon, et il est dans la filiation de la danse buto, et il disait « la nature est une extension sauvage de mon corps ». Donc voilà, ça remet un petit peu le curseur du côté de l'origine du titre. Et puis, bah, sauvage, aujourd'hui, moi, si je me place du côté de la biodiversité, du vivant et tout ça, ça me va bien. Si je me place du côté de la diversité au sens très large, ça me va aussi encore. Après, bien sûr, bah, toutes les sémantiques sont appropriées, réappropriées. Et c'est vrai que sauvage, ça a parfois, dans le... Les discours politiques, par exemple, ça a pris une intention extrêmement péjorative, mais je pense qu'elle est, pour moi, c'est une capture sémantique. Donc moi, je recapture et j'insiste sur le sauvage qui est du côté du vivant, de la vie et puis de, ouais, de cette diversité nécessaire à toute vie.
Alors justement, sauvage, ça s'incarne particulièrement dans cette programmation avec, on va commencer à essayer de la détailler, le solo de Léa Vinette qui s'appelle Nox In Situ, justement, elle porte bien son nom. Qu'est-ce que tu trouves de sauvage dans sa recherche autour justement de l'obscurité et de l'identité ?
Alors, peut-être que je précise aussi que c'est pas forcément mon entrée, la question du sauvage. C'est plutôt comment les danseurs, les danseuses, les performeurs sont prêts à sauter dans le vide d'une autre scène qui parfois n'est pas du tout prévue. Par exemple, Léa Vinette, typiquement, elle l'a intitulée Nox In Situ, puisqu'à l'origine, c'était un spectacle de scène et que in situ, bah, ça revisite son travail, quoi. Elle doit l'adapter d'une certaine façon. Après, je dirais que peut-être quand même son rapport au sauvage, quand même, c'est ta question. Et puis, c'est difficile parce que si on rentre dans presque très largement l'anthropologie, enfin, sauvage comme ça, c'est difficile de lui donner une seule définition univoque, mais en tout cas elle a la capacité, cette jeune danseuse et chorégraphe, de mobiliser aussi, d'être peuplée à l'intérieur. Quand elle danse, on a l'impression qu'elle n'est pas seule, et donc elle fait parler aussi, je pense, des mémoires, des, voilà, donc elle voilà, c'est quelque chose que je trouve assez rare dans, ouais, chez les danseurs, donc c'est quelque chose qui me touche beaucoup.
Alors justement, tu le disais, cette création in situ, enfin recréation, adaptation, je ne sais pas comment le dire, Extension Sauvage, c'est effectivement le paysage qui est une scène vivante, un partenaire de jeu pour certains des artistes. Qu'est-ce que ça change, alors pour toi d'ailleurs, mais aussi pour les artistes que tu accueilles dans le cadre de ce festival, de faire dialoguer la danse avec ce paysage réel plutôt que d'être dans une boîte noire ?
Ben, j'aime bien cette idée de partenaire de jeu parce que c'est vraiment exactement ça. Des fois, c'est même un personnage principal. C'est très fort, le paysage, en fait. Enfin, c'est puissant. Et du coup, il faut vraiment que les artistes, lorsqu'ils adaptent, ce qui est encore différent quand ils créent in situ, parce que forcément, c'est c'est déjà inclus dans le temps de résidence et tout ça. Mais lorsqu'il n'y a pas de résidence et que les artistes arrivent deux jours ou un jour avant et qu'ils doivent adapter, eh bien, ils ne peuvent pas du tout... il y a vraiment une nouvelle relation à cette scène vivante. Et vivante, c'est très concret. C'est-à-dire que le paysage, ce n'est pas du tout un décor. Il a, comme je le disais, sa propre puissance. Il y a une bande-son qu'on ne maîtrise pas du tout. Le vent, les oiseaux. Bon, c'est en plein milieu rural, donc parfois, on peut avoir un tracteur qui passe. Je dirais que aussi, quand on danse, par exemple, dans l'espace public, c'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est cette capacité, finalement, à jouer avec tous ces paramètres. Donc, moi, lorsque je me rapproche d'artistes ou d'œuvres, je fais attention à ce que ce soit des artistes et des œuvres qui soient capables de se reconfigurer, qui aiment tout simplement jouer. Hein. Reconfigurer, ça fait tout de suite un grand terme, mais c'est juste qu'ils aiment des personnes qui aiment jouer. Et très souvent, quand ils jouent le jeu, et c'est la plupart du temps, eh bien, ils découvrent presque une autre pièce, en fait. C'est-à-dire que le paysage fait raconter à la pièce, augmente son potentiel de fiction presque. Et ils me disent, mais c'est... Enfin, voilà, très souvent, il y a des choses qui apparaissent, qui n'étaient pas apparues encore dans la boîte noire.
Justement, on a parlé là du rapport des artistes au paysage, mais qu'est-ce que ça transforme chez les spectateurs qui regardent aussi et qui composent avec les bruits, tu l'as dit, le souffle du vent, les regards qui vont se détourner parfois et pas regarder face parce qu'on n'est pas toujours dans une configuration frontale.
Oui.
Qu'est-ce que ça change aussi pour les spectateurs ?
Bah moi, ce que j'observe et aussi un peu les retours que j'ai, c'est déjà pour des personnes, par exemple, qui n'osent pas aller au théâtre, c'est beaucoup plus désinhibant parce que soit c'est parce que ce sont des paysages qu'ils connaissent et du coup, il y a déjà une sorte d'apprivoisement comme ça de certains lieux. Et puis, ou alors, c'est simplement parce qu'il n'y a pas ce côté où il faut pousser une porte. Donc, il y a quelque chose d'assez immédiat. J'ai l'impression qu'on part plus volontiers à l'aventure, y compris pour des spectacles dont on ne connaît absolument pas les artistes. Et on ne sait pas exactement ce qu'on va voir. On a des images qui sont un peu une accroche, un texte. Et puis, en effet, on part vraiment à l'aventure. Donc j'ai l'impression que ça autorise davantage. Et puis, c'est étonnant, mais je trouve que ça permet aussi de... C'est très transgénérationnel. C'est parce qu'on pense aussi le festival. Bien sûr, les spectacles, ce sont vraiment les objets principaux. C'est pour ça qu'on fait ce projet. Mais on fait aussi très attention aux espaces entre deux spectacles et comment on traverse le paysage. Donc, il y a quand même toujours une notion de promenade. Et ça met ensemble autrement que lorsqu'on est assis dans un théâtre, même si c'est très beau, hein, l'intimité du noir et du théâtre. J'aime beaucoup, moi, quand je danse, cette concentration, quoi, cette atmosphère. Mais là, je dirais que c'est être ensemble autrement. On ose se parler. On ne sait pas à côté de qui on est, mais on ose se présenter. Enfin, ça donne quelque chose de beaucoup plus, peut-être une forme de convivialité, en fait.
Ouais. Justement, le festival va commencer très fort avec une pièce qui s'appelle « Paysage caviardé ». Tu parlais de cette mise en mouvement. Là, c'est une performance pour trois personnes seulement, dans un minibus qui va être en mouvement. Et qui va permettre, en fait, de découvrir aussi un paysage qui peut être familier ou pas. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu tenais à inviter donc Olga Maté et Pierre-Benjamin Nantel pour cette pièce Paysage caviardé ?
Alors, en effet, c'est une pièce plutôt intimiste, on va dire, en tout cas dans le nombre de spectateurs, mais par contre, ils le font énormément de fois. Donc, du coup,
8 fois, je crois.
Voilà. 8 fois, plus toute cette semaine, puisqu'ils sont en résidence depuis 2 semaines. Donc, à partir d'hier, comme ils croisent énormément de monde pendant leur résidence, d'habitants, d'habitantes, ils l'ouvrent déjà pour le territoire depuis mardi. Alors, ce qui me plaisait beaucoup, c'est que. En fait, j'aime beaucoup cette proposition qui est En fait, donc on est à l'arrière d'un véhicule, donc c'est une performance véhiculée. Et on est assis à l'envers. Et l'ouverture du véhicule à l'arrière te fait comme un cadre de cinéma. Et comme un cadre, oui, d'écran de cinéma. Et donc, on voit défiler le paysage sur un itinéraire qu'ils ont choisi selon un protocole qu'ils ont déterminé. Et puis, c'est augmenté d'un texte qui est d'ailleurs lu principalement par Olga. Et ce texte, en fait, il part à la fois d'un livre trouvé dans une boîte à livres. Et c'est là qu'ils ont caviardé. Donc, ce terme caviardé, c'est vraiment masquer un certain nombre de mots pour le reconstruire avec tout ce qu'ils ont vécu pendant la résidence. Et ça, ce sont des récits. Par exemple, ils cherchent une personne qui pourrait leur faire visiter Combourg. Donc, évidemment, de ce récit-là, ce récit va rentrer dans l'histoire. Ils cherchent une personne qui s'appelle Gabriel, au masculin ou au féminin. Et lorsqu'on leur présente un ou une Gabriel, en l'occurrence, c'est une Gabriel dite Gabi, une dame qui a 89 ans, et qui est de Combourg, et qui a donc fait récit de Combourg depuis son point de vue. Et donc, c'est ces différentes couches de récits qui viennent se mettre à la place des mots qui ont été caviardés. Plus, elle improvise beaucoup aussi avec ce qui se passe en temps réel dans la promenade, en véhiculé. Voilà. Et à la je ne peux pas trop dévoiler, j'allais faire une bourde, puisque moi, je l'ai fait hier, je l'ai testé hier. Et à un moment, il y a une danse dans le paysage. Donc, voilà.
Justement, tu parles de cette interaction entre les habitants, le public, ces récits qui sont collectés. Extension Sauvage, on l'a déjà dit, c'est pas uniquement un festival de programmation avec des artistes et une programmation, c'est aussi un espace de rencontre, un endroit où on reste, où on mange, on discute, on échange. Comment tu penses cette dimension d'hospitalité au sein du festival ?
Eh ben, pour moi, c'était important que en milieu rural, il y ait un type de projet comme ça. Il y a énormément de choses hein, déjà, donc je suis pas du tout arrivée avec avec l'idée de conquérir un territoire, mais plutôt de d'y ajouter quelque chose qui me semblait ne pas être présent. Et donc c'est en effet, c'est Extension Sauvage, c'est tourné autour de déjà faire hospitalité à un public et à des artistes, comme tu le disais, dans une configuration qui permet des temps de rencontre, des temps au milieu de spectacle, mais aussi ce deuxième week-end qu'il n'y a pas cette année exceptionnellement, qui s'appelle Extension Sauvage Forêt, et qui, lui, ce week-end, se passe donc plus particulièrement dans la forêt, avec l'idée de faire d'avoir plein de rendez-vous autour de l'échange, un échange de savoir autour des questions de la biodiversité. Donc cette année, exceptionnellement, pour des raisons budgétaires, on ne l'a pas fait. Mais donc c'est un temps assez long et assez dilaté pour imaginer des espaces de rencontre très hétérogènes. Mais ça peut se faire, là par exemple, on a vendredi, on commence également avec un week-end, avec un temps de pratique où il y aura du voguing, du hoop dance, du yoga, il y a un fest-noz, enfin voilà. Il y a plein de modalités pour plein de façons d'être là.
Je vous rappelle que dans Le Grand Tout, Nadia s'entretient avec la chorégraphe et danseuse Latifa, la ABC, autour de cette Extension Sauvage, 14e édition, ce week-end à Combourg et Bazouges-la-Pérouse. Petite pause musicale, on les retrouve toutes les deux, Nadia et Latifa, juste après que vous avez entendu cet extrait du titre Holly Molly, cet homme Mera Harmony, et puis c'est... La musique fait le teaser de ce beau rendez-vous le paysage in situ, donc autour de la danse. Thank you. Mira Harmony, à l'instant le titre Holy Molly, un extrait seulement, ça sert de bande-son au teaser d'extension Sauvage, édition numéro 14. Vous retrouvez toutes les informations que peut-être Nadia et Latifa ne vous délivreraient pas maintenant sur le site extensionsauvage.com. Mais en tout cas, la discussion se continue entre vous deux, Nadia.
Oui, tu as évoqué juste avant la pause musicale le voguing et aussi un fest-noz, mais là je vais insister sur le voguing. Il y a la proposition de Marta Izquierdo-Munoz qui explore avec ses interprètes des figures mythologiques, celles de Castor et Pollux, mais aussi une forme beaucoup plus récente qui est le voguing. Donc c'est une danse dont tu nous parleras peut-être parce que tout le monde ne sait pas ce qu'est le voguing. Comment ce mélange d'un mythe antique se fait avec une culture en résonance beaucoup plus contemporaine, et quel écho ça prend au sein du festival?
Je pense que, j'espère que je ne la trahis pas, Marta Izquierdo-Munoz, elle est vraiment partie de la rencontre avec ces deux danseurs, danseuses. Et vraiment, elle a projeté sur leur corps longiligne, voilà, un peu androgyne, ces figures mythologiques, justement. Pour ça, ça s'appelle Dioscure. Et donc, ces danseurs sont des danseurs de voguing. Donc, elle est vraiment... Elle les a rejoints, j'ai envie de dire, même si c'est une pratique qu'elle connaît très, très bien et qu'elle pratique, d'ailleurs. Elle les a rejoints en fait dans ce vocabulaire de danse. Donc voilà, je pense que ça s'est produit comme ça. Et pour moi, ça, c'est bah, déjà c'est un spectacle que j'ai beaucoup aimé lorsque je l'ai vu. Et j'ai cette dimension mythologique dans le paysage. Il y a un côté créature aussi dans ce que représentent ces figures, j'irais. Et j'ai tout de suite, j'avais aucun doute, alors qu'elle ne l'a jamais fait. Ça fait partie des artistes qui vont vraiment adapter. Elle vient un petit peu avant pour adapter pour l'extérieur. Elle m'a dit, ah bon, tu crois? Et moi, c'était vraiment une évidence, quoi, que ça allait être une belle rencontre avec, ouais, dans la nature, quoi. Donc voilà.
Et à ce spectacle, il y a aussi des actions où les spectateurs vont passer de spectateurs justement à un corps en action, puisque eux-mêmes vont pouvoir pratiquer le voguing avec ces mêmes danseurs.
Oui, c'est ça. Bah, en effet, c'est vrai qu'on essaie, c'est la première fois qu'on le teste cette forme dans le festival, qu'on la teste, pardon. On avait très envie en effet de proposer des ateliers avec le voguing. Donc le voguing, ça prend vraiment ancrage. Donc c'est une danse, c'est vrai qu'on peut nommer très actuelle, mais en fait elle n'est pas tant que ça, puisque c'est une danse quand même qui est assez politisée, puisque elle est née, on va dire, dans les milieux gays afro-américains. Et puis elle a été plus, on va dire, davantage popularisée pour le grand public lorsque Madonna a chanté cette fameuse chanson Vogue, et où d'ailleurs elle a fait appel à des danseurs de voguing pour l'interpréter, et où le vocabulaire à l'origine était très emprunt des poses que l'on fait sur un catwalk dans les défilés de mode. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que... Enfin, complexe. C'est pas complexe, mais je veux dire, il y a un vrai vocabulaire de danse. Et les poses en font partie, mais c'est extrêmement riche. C'est génial. Il y a plein, plein de danseurs hip-hop qui maintenant, je pense par exemple aux Twins, par exemple, les deux, voilà, qui sont extrêmement fameux, qui ont dansé avec Beyoncé et tout ça, ils intègrent énormément de voguing, par exemple, dans leur danse. Et il y en a plein d'autres, hein, j'en vois beaucoup dans les battles et tout ça. Donc c'est une danse qui est devenue très, très populaire, qui est très circulante. Et voilà, donc pour moi, ça me faisait très plaisir qu'il y ait cette dimension-là, en tout cas de transmission. Et puis, il y a aussi un atelier de hoop dance. Donc ça, c'est proche du hula hop, mais c'est un petit peu plus complexe. Enfin, complexe, pas du tout à apprendre. Mais je veux dire que, voilà, on peut hula hopper. Je ne sais pas si ça se dit. de façon complètement dingue. Et Valérie, j'aime beaucoup parce que Elle a une façon de transmettre. Elle habite près de chez moi, donc elle habite près de Cugin. Et elle enseigne le hula hoop en plein milieu rural. Et c'est génial. Elle a une façon de transmettre qui est formidable. Et Mathilde, qui enseigne le yoga, est aussi quelqu'un du territoire et qui... voilà, que j'aime vraiment beaucoup.
Ça veut dire que les gens qui n'ont pas envie d'être spectateurs uniquement peuvent très bien passer à l'action en mettant
Absolument.
Leur corps ouais, dans ouais. ces ateliers.
C'est chouette et puis je pense que ça rend réceptif autrement quand on a pratiqué. Voilà, puis c'est juste joyeux aussi, c'est un moment,
c'est un moment
très
de partage.
Joyeux.
Ouais. Je reviens sur un autre duo marquant de la programmation, Mirliton, avec François Chéniaud et Aymeric Henault. Donc c'est un combat poétique entre un beatboxer et une danse baroque, on va dire. Il y a presque un côté rituel. Qu'est-ce qui te plaît dans ce croisement d'époque et de style? On l'a dit un peu juste avant, mais là, il y a encore un peu cette couleur-là qui se dessine dans ce...
Oui, c'est vrai. C'est vrai. En fait, déjà... Aymeric, je ne le connais pas, mais je connais très bien François Chéniaud pour l'avoir invité plusieurs fois et on a aussi dansé ensemble dans d'autres contextes. Et voilà, j'aime beaucoup son travail et sa façon vraiment de se donner des défis d'expérience. Et là, ça en est vraiment un. C'est-à-dire, il a rencontré Aymeric, qui est poète et beatboxer, comme tu le disais. Lui, il a aussi une pratique vocale importante. Hein. C'est un magnifique chanteur baroque, entre autres, François Chéniaud. Et donc, ils se sont vraiment demandé qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ensemble. Et ça a donné ce duo, quoi. Ce qui est très beau, c'est que je pense qu'ils vont chacun sur le territoire de l'autre. Et en même temps, ils gardent vraiment leur singularité. Donc, ça donne quelque chose de très hybride comme forme. Et c'est vraiment magnifique, hein. C'est assez magistral comme danse et comme voix. C'est très très impressionnant, j'espère que voilà, il y aura le plus grand nombre qui pourront voir cette pièce. Et c'est encore un projet qui s'adapte à l'extérieur, puisque c'était à l'origine pensé vraiment pour des théâtres.
Il aura lieu à quel endroit précisément ?
Alors, il aura lieu donc le 22 juin, dimanche, dans les jardins du château de la Balue.
On poursuit un petit tour de la programmation. Le dimanche, justement, on découvrira aussi El Adaptador, je ne sais pas si je le dis bien, de Marco Berrettini. Donc là, c'est un duo qui tourne autour de la figure du matador et puis qui questionne justement cette tradition du matador. On sait à quel point ça peut être clivant comme sujet. Pourquoi tu as voulu inviter cette pièce là, aujourd'hui, à un moment où ça raconte quelque chose aussi de notre époque sur ces clivages qui existent très souvent en ce moment, en tout cas, autour de la chasse, des véganes. Il y a énormément de clivages, et particulièrement sur cette question en ruralité, ces clivages parfois prennent des formes très, très diverses. Alors, effectivement, en Bretagne, on n'est pas d'une tradition du matador, et je pense que ça sera moins clivant, mais quand même, voilà, en quoi cette pièce, aujourd'hui, elle raconte quelque chose?
Ben parce que, comme tu le dis, c'est une période au-delà de sujets précis qui est presque par essence clivante, c'est-à-dire qu'on doit être d'un bord ou d'un autre. C'est assez tragique d'ailleurs parce que voilà, on voit le monde aujourd'hui dans lequel on est. Donc je vais pas faire mon petit quart d'heure larmoyant, mais quand même, je trouve ça assez complexe. Et ce que je trouve le plus triste, c'est qu'on ne se parle plus. Parce que c'est intéressant, c'est chouette quand on est d'accord, parce qu'on peut célébrer des accords, mais je pense qu'on peut aussi célébrer d'une certaine façon des dissensus. Mmh. En parler, comprendre, appréhender l'espace de l'autre, enfin voilà. Et pour moi, c'est hyper important, comme artiste, d'être à cet endroit-là. Et justement, quand j'ai vu cette pièce, j'ai trouvé que Marco Berrettini, il a une dimension, il est très politique dans son travail, mais il a une dimension très comique aussi, et pas du tout un comique moqueur, avec des vraies questions. Mais il essaie, comment dire, de créer justement cet espace intermédiaire où on pourrait parler ou en tout cas inventer d'autres fictions, se poser des questions autrement et tout. Et quand j'ai vu ce projet, je me suis dit, ah tiens, c'est malin, mais dans le bon sens. Mmh. C'est-à-dire qu'il se dit, alors, si ces fameux matadors ne peuvent plus, je pense qu'on dit torer, je crois, parce que notre monde bascule dans un véganisme généralisé, eh bien, qu'est-ce que peuvent faire ces personnes ? Et du coup, ils partent de là pour commencer à construire une fiction. Et évidemment, ne leur a pas échappé que dans la corrida, les gestes sont juste... Il y a une véritable chorégraphie. Enfin, c'est incroyable et c'est extrêmement codifié. Donc, il y a une grammaire, au fond. Et je pense qu'il s'appuie largement là-dessus. Donc, quand j'ai vu le spectacle, j'ai trouvé, quand je disais malin, c'est vraiment... Ils mettent cette question-là et en même temps, ils jouent et ils la détraumatisent en non pas pour l'atténuer, mais pour que ce soit possible d'en parler, en fait, et d'en parler en n'étant pas d'accord. Et je trouve que c'est aussi une place pour l'art, en fait, que, bon, il y a des pièces qui sont plus manifestes et qui affirment un point de vue. Là, je pense que ce n'est pas une pièce qui affirme un point de vue, c'est une pièce qui crée un espace différent pour pouvoir en parler.
Et justement, pour finir, Extension Sauvage, on l'a dit, c'est aussi une fête où le public danse, peut danser, peut manger, peut discuter, justement, échanger. Qu'est-ce que tu espères que le public emporte après ce week-end ?
Moi, j'aime... En tout cas, je me dis, quand j'ai la sensation que les gens, le public, les personnes partent à l'aventure, vraiment comme quand on part en promenade en forêt, on n'est pas en train de se dire j'espère qu'il y aura un chêne, j'espère qu'il y aura telle essence d'arbre ou tel type de chemin. Ou, voilà, on part à l'aventure et on est toujours surpris en fait. Et on est toujours dans une espèce de réception un peu maximum, quoi. Et j'espère simplement que les gens viendront avec cet état d'esprit et qu'ils partiront avec plein d'images et plein de sensations.
Alors, soyez curieux et allez à Extension Sauvage.
Merci Nadia pour cette discussion avec Latifa Labissi, notre invitée aujourd'hui autour, je le répète une dernière fois, d'Extension Sauvage, 14e du nom, c'est ce week-end à Combourg et Bazouge La Pérouse. Merci à vous deux. C'est à Combourg et à Bazouge de la Pérouse. Retrouvez toutes les infos évidemment autour de cette Extension Sauvage numéro 14 sur le site du festival extensionsauvage.com. À suivre, Allez on lit numéro 73.
Allez on lit. Allez on lit les chroniques littérature jeunesse par Soizig Le Bay sur Canal B.
Le mercredi sur Canal B, on parle bouquin avec Soizig Le Bay. Bonjour Soizig.
Bonjour Yann.
Et c'est surtout Soizig qui nous en parle et qui nous présente aujourd'hui Les Enfants de Freewater de Amina Lugman Dawson, traduit de l'anglais des États-Unis par Charlotte Ritzman, et c'est paru aux éditions Milan.
Ah, ces bons gros romans d'aventure ne sont pas si fréquents dans nos rayons jeunesse à l'heure du tout fantastique. En voici un et tout y est. Nous sommes dans le sud des États-Unis, un grand domaine exploité par des esclaves. Homer a 12 ans, sa petite et pétulante sœur Ada, 6 ans. Un soir, ils tentent de fuir avec leur mère. Elle est rattrapée par les chiens. Mais les enfants foncent dans le marécage et disparaissent. À la grande colère des chasseurs, on ne s'enfuit pas de la plantation, ça pourrait donner des idées aux autres. Après de longues heures de marche nocturne, ils sont récupérés par Suleiman, ancien esclave lui aussi, qui sauve des fuyards, les nègres marrons. Et aussi récupère comme il peut outils, nourriture, pour ensuite les distribuer à la communauté de Freewater, où il va conduire les enfants. Au cœur des forêts, au-delà des marécages, loin des territoires des Blancs, les nègres marrons ont fondé une communauté utopique, Freewater. Ici, pas de chef. Les hommes et les femmes sont chacun en charge des tâches. Il s'agit de survivre et de ne pas laisser de traces. Rester invisible pour ne pas mettre la communauté en danger. Chacun des adultes sait que le châtiment sera terrible s'il se fait prendre par les chasseurs de fuyards. Chacun porte sur son corps les traces des sévices reçus durant leur vie d'esclave. Pour circuler, ils ont donc construit des ponts de lianes dans la canopée. Une vie simple, un confort rudimentaire, oui, mais la liberté. Homer et Ada sont accueillis avec bienveillance. Un nouveau monde s'offre à eux. Pour autant, ils n'oublient pas leur père et Homer, ni leur mère. Ils n'oublient pas leur père et leur mère. Et Homer se promet d'aller un jour la chercher, la sauver. If you could know what it means to be me, you'd see, you'd agree. Des enfants sont nés dans cette communauté, dont la jeune Sandy, aventureuse. Mais elle supporte mal le devoir de respecter les frontières du domaine. Elle rêve d'exploration, quitte à mettre Freewater en danger. Aventure, Robinsonnade, récit historique nous rappelant le temps de l'esclavage, nature omniprésente, trahison. Ce récit choral, celui d'une traite, les personnages sont bien vivants, bien différents, et l'on y croit à cette utopie de Freewater, un monde meilleur où chacun trouve sa place. Amina Lukmin Dawson est américaine, elle est journaliste aussi, et ce premier roman a reçu des prix prestigieux aux États-Unis.
Merci Soazic, tu nous parlais donc des enfants de Freewater, c'est paru aux éditions Milan, et c'est un roman d'Amina Lukmin Dawson qui a été traduit de l'anglais des États-Unis par Charlotte Ritzman. À bientôt Soazic, merci beaucoup.
À bientôt.
Allez, on lit les chroniques littérature jeunesse par Soizig Le Bay sur Canal B.
Vous aurez reconnu bien sûr l'illustration musicale de cette chronique Allez on lit numéro 73 proposée par Soizig Le Bay. C'était bien sûr la fantastique Nina Simone en live en 1977 au festival de jazz de Montreux. On termine l'émission comme depuis le début de la semaine avec les deux albums découvertes Ferrarock de cette même semaine, TV Sundays d'un côté et Bilbao Kung Fu de l'autre. Les seconds chantent en français, le titre Moody ce soir dans quelques minutes, et puis juste avant ce morceau plus garage par TV Sundays. Retrouvez toutes les infos autour de ces deux disques sur ferrarock.org. On se retrouvera nous autres jeudi avec Antonin Moreau du cinéma L'Arvor pour nous parler de quelques réjouissances cinématographiques à retrouver cet été sur les écrans du cinéma Arvor. À bientôt pour de nouvelles aventures, ciao.
Leaves have fallen from your tears.